Chapitre 15. Il y a pire que les mers. Il y a l'armée des conseillers de l'ombre, des éminences grises, de ceux qui caressent le rêve du pouvoir sans jamais le toucher. Justin Garléand, le Parisien net. Cité unifiée de Nilopa. Ganesh se dirigea vers le comptoir derrière lequel se tenait un technicien vêtu d'une combinaison blanche. Bonjour, je suis Ganesh Parvati, fouineur de premier grade. Son vis-à-vis, un homme encore jeune, une seule correction génétique détectée, sourit avec condescendance. Pas la peine de vous fatiguer. Ma biopuce vous a présenté dès que vous avez mis les pieds dans cette pièce. Admis dans le corps des fouineurs depuis 37 jours. Un coup d'éclat à votre actif, la neutralisation d'une secte dangereuse appelée la fin des temps. À propos de temps, vous n'en perdez pas, vous. Ganesh apprécia le compliment d'une inclination du buste. Le local technique semblait encore plus propre que les bureaux. Des détecteurs le nettoyaient en permanence des virus et autres organismes microscopiques qui risquaient d'endommager les séquences d'ADN de synthèse cultivées dans les ateliers voisins. Il n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit. On lui avait implanté sa biopuce dans une clinique réservée aux fonctionnaires de Paris. « J'ai une question. Si elle concerne les aspects techniques du métier, vous êtes au bon endroit. » Le sourire supérieur de son interlocuteur horripila Ganesh. Ma biopuce. Elle me propose de temps à autre de passer en mode direct contrôle. Vous savez ce que ça signifie? Les sourcils du technicien se haussèrent d'un ou deux millimètres. Curieux. Je croyais qu'on avait abandonné la technique de programmation alternative depuis la mort de son inventeur. La programmation alternative? Le changement de centre de contrôle selon les circonstances. La possibilité pour la biopuce de prendre le relais du cerveau en cas d'urgence. C'est pourtant ce qui m'est arrivé. Le sourire du technicien s'effaça. Probable que votre biopuce ait été fabriquée sur un ADN de récupération mal purgé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le technicien secoua la tête d'un air désolé. Rien. Il n'y a plus un seul scientifique compétent pour ce genre de truc. Tous ceux qui bossaient là-dessus sont morts dans l'incendie du labo. Les recherches ont été abandonnées. Si ça se reproduit, le mieux serait de changer de biopuce, mais vous le savez aussi bien que moi. L'opération risquerait de vous laisser avec le QI d'un moineau. Même si l'étau se resserrait sans cesse sur les citadins, il était totalement illusoire de prétendre tout contrôler dans une structure aussi complexe que celle de Nilopa. Tout simplement parce que l'ordre parfait n'existe pas, que l'entropie se glisse dans les moindres rouages, que le chaos règne en maître dans les zones obscures. En laissant grouiller et grandir les monstres dans nos fosses secrètes, nous mettions nous-mêmes la cité en danger. Nous n'avions plus confiance en nous. Nous n'aimions pas contempler les reflets que nous renvoyaient nos miroirs intimes. Nous nous efforcions de donner une image lisse et rassurante, sans nous rendre compte que notre monstre grandissait en nous et nous dévorait de l'intérieur. Nous étions devenus des coquilles vides. C'est, je crois, la principale explication du phénomène des ombres. J'aurai sa peau à ce salaud. Pourquoi ont-ils plus que moi? Ils ne le méritent pas. Je ferai tout pour qu'il ne soit jamais à elle. Elle ne l'aura pas, cette garce. Jamais je ne me suis senti aussi seul. Je les crèverai tous, ces connards. Personne ne m'aime, personne ne m'a un jour aimé. Je déteste ce que je suis, je déteste ce que nous sommes. Il faut pas que j'aie de telles pensées. Il est débile, ce mec. Pauvre con, t'as vu ta tronche? J'en ai marre de cette vie. Mon enfant, je l'ai tué. J'ai jeté son corps dans le feu. S'ils s'en étaient rendus compte avec leur satané biopuce, ils savent tout. Ils le savent sûrement. Pourquoi ne sont-ils pas venus m'arrêter? Je lui ai piqué tout son fric. Il était plus conscient. Je me demande s'il s'est rendu compte de quelque chose. Je suis peut-être maudit. Maudit. Combien de fois l'ai-je trompé? Il le savait. Il n'a jamais rien dit. Est-il vraiment mort d'un accident? Est-ce qu'il ne s'est pas suicidé? Rien à foutre de ce qu'elle raconte, elle m'emmerde, j'ai juste envie de la baiser. Nous sommes tous foutus, foutus, nous allons crever comme des rats. C'est ce que nous sommes, des rats, des saloperies de rats coincés dans une nasse. Ils n'auront rien, rien du tout. Ils ne me rendent visite que pour me voir crever. Ces charognards, ils me guettent comme si j'étais un animal en train d'agoniser dans le désert. Je leur parle, mais ils ne m'entendent pas, ils ne m'ont jamais entendu. La prochaine fois, je lui casserai la gueule à ce connard. Il me faut ma dose, putain, il me faut ma dose, j'ai besoin de fric. Pourquoi il me regarde comme ça, celui-là? J'ai peur. J'ai toujours eu peur. Je n'aurais jamais dû le suivre. Il est moche. Il pue. Si ça se trouve, il se lave pas. Il change jamais de fringue. La mort. La mort, est-ce qu'il y a de mieux? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pensée archivée. Séquence achevée. Ganesh croisa le regard d'Ava, assise à la place de Théo derrière son bureau. Une tenue noire moulante mettait parfaitement sa silhouette et sa chevelure blonde en valeur.
« Ah, c'est toi ?
Bonjour aussi, Ava. Tu as l'air déçu ?
Je croyais que... »«
Que quoi ?
Rien.
Des nouvelles de ta petite amie ?»
Ganesh secoua la tête, les mâchoires serrées. La vitesse à laquelle Amy sortait de sa mémoire le stupéfiait, l'effrayait.
« T'étais passé où ?»
Il ignora la question. Il n'avait aucun compte à lui rendre.
« Théo n'est pas là ?
Il a dû s'absenter.
T'as dit où il allait ?»
L'hésitation d'Ava, bien qu'infime, n'échappa pas à Ganesh.
« Non. Jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Il n'est pas à ton service ?»
lança-t-elle avec une pointe d'agressivité.
« Toujours aussi aimable. Bizarre qu'il t'ait planté là sans te donner d'explication. Tu es sa stagiaire, quand même.
C'est un grand garçon, il me raconte pas tout.
En théorie, il devrait te montrer tous les aspects du métier. »
Ava le fixa d'un air provocateur. Elle était pâle et semblait tendue. « Abus d'accélérateur de zen.
Je n'ai pas encore reçu ma biopuce analytique. Je ne suis pas censé tout connaître du métier. »
Ganesh s'assit sur un coin du bureau. La voix acide d'Ava lui provoquait toujours le même effet. Une vibration froide qui se transformait, au bout de quelque temps, en sensation plutôt agréable. L'archiviste continuait d'afficher des informations sur son petit écran.
« Écoute, Ava, je sais pas ce qu'il t'a raconté, mais tu ferais bien de tout me dire. Théo a l'art et la manière de se fourrer dans les pires traquenards. Puisque je te dis que je ne sais pas où il est parti.
Analyse morphopsyché. Probabilité de dissimulation 63%.
Ma biopuce me dit exactement le contraire. »
Ava se redressa et soutint sans ciller le regard de Ganesh.
Elle n'a pas toujours raison.
Pas toujours, mais souvent.
Toi aussi, tu as disparu sans donner de nouvelles.
Je n'avais pas le choix.
Théo n'a peut-être pas le choix, lui non plus.
Ganesh se leva pour jeter un coup d'œil sur l'écran de l'archiviste, espérant, sans trop y croire, dénicher une information qui le mettrait sur une piste.
C'est bien ce qui m'inquiète.
Les statistiques qui s'alignaient de façon métronomique ne lui apportèrent aucun renseignement exploitable.
Au fait, tu es au courant ?
Demanda Ava.
Je le serai si tu me dis de quoi il s'agit. On a retrouvé le cadavre de Leito Mercante, le responsable en second du corps des fouineurs. Il s'est apparemment suicidé à son domicile.
Il n'existait sans doute pas un endroit à New York qui ne soit surveillé nuit et jour. Les New-Yorkais avaient gardé des temps anciens une méfiance qui les poussait à poser de multiples serrures et à recruter des légions de vigiles. C'est dans la cité américaine qu'on dénombrait le plus grand nombre de sociétés de gardiennage. Un journaliste avait calculé qu'on y comptait un vigile pour 3 habitants, contre 1 pour 16 à Londres et 1 pour 22 à Paris. Cette paranoïa avait-elle un lien avec les incessantes tentatives de la ville de prendre le contrôle total de la cité unifiée ? Pour les New-Yorkais, en effet, les villes de Londres et de Paris étaient des passoires à plombeurs, et beaucoup d'entre eux réclamaient soit l'administration centralisée de Nilopa, soit sa sécession pure et simple.
« What are you doing there ?»
Le faisceau puissant de la lampe blessa les yeux de Théodore. Il s'était fait surprendre comme un débutant. Sa biopuce ne lui fournit aucune information sur son vis-à-vis, dont le visage restait plongé dans l'obscurité.
« Calm down !» dit-il. « I'm a fouineur from Paris, a grub. My name is Théodore Bernier. Lève les mains bien haut, connard !»
Théodore s'exécuta.
« Vous parlez français ?»«
On te repère à 100 kilomètres. T'as un accent à couper au couteau. Je suis de la communauté parisienne de New York.
Hey, bouge surtout pas !»«
Qu'est-ce que tu fous là ?» Les bureaux sont fermés.
Théodore tourna la tête pour échapper au faisceau pointé sur son visage.
J'avais 2 ou 3 trucs à vérifier. Si tu pouvais éviter de me balancer le rayon de ta lampe dans la gueule.
Faudra revenir aux heures d'ouverture, répliqua l'autre. Comment t'as réussi à entrer? Et d'abord, qu'est-ce qui me prouve que t'es un fouineur?
Théodore baissa l'index vers sa poitrine.
Si tu me permets de bouger une main, j'ai un jeton d'identification dans la poche intérieure de ma veste.
C'est ça, ouais, juste à côté de ton flingue. « Réponds, qu'est-ce que tu fous là ?»«
Je te l'ai dit, des trucs à vérifier. »«
En pleine nuit ?»«
Disons que j'avais besoin de discrétion. »« Et j'ai comme l'impression que sur ce plan-là, c'est complètement foiré. »« Ta putain de lumière me fait mal aux yeux !»
Théodore devina que l'homme l'observait avec une grande attention.
« T'es un enfoiré de dissident, hein ?»«
Je n'appartiens à aucun groupe, mon vieux, » répondit le fouineur. « C'est seulement que l'enquête que j'ai commencée à Paris m'a conduit à New York. » au croisement de la 34e rue et de Madison Avenue, dans ce bureau, et que je dois vérifier certaines informations. J'ai peur que mes chers collègues rechignent à me donner les bonnes.
Je te propose qu'on les attende ensemble.
On risque de s'endormir.
L'autre ricana. Théodore pesta contre lui-même. Les New-Yorkais étant réputés pour leur paranoïa, il aurait dû se douter que le bureau des Grubbs était gardé par des vigiles. Il joua la carte de la solidarité parisienne.
« Comment tu t'appelles ?
Qu'est-ce que ça peut te foutre ?
Tu as une famille ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ?
Cherche pas à m'emberlificoter, mec !
Si tu as une famille, comme je le crois, tu ne mises pas sur le bon avenir avec tes amis Grubbs.
Le tien d'avenir ne s'annonce pas brillant non plus. Les gens d'ici n'aiment pas qu'on vienne fouiner dans leurs affaires.
T'es qui, toi, au juste ? Un Grubb ?
Putain, non ! Je suis juste un des 10 veilleurs de nuit de ce bâtiment. Tu as peut-être réussi à entrer ici sans déclencher l'alarme, mais t'as pas pu tromper ma biopuce. Elle détecte les moindres sources de chaleur. Je te lance les menottes. Tu te les passeras au poignet, puis tu avanceras tout doucement vers le radiateur, compris ?
Tu veux pas d'abord entendre ce que j'ai à te dire ?
Les menottes tombèrent aux pieds de Théo dans une succession de tintements.
« Ferme-la ! Et passe tout de suite ces putains de menottes !»«
Si mes collègues new-yorkais me trouvent là, ils vont me liquider. »«
Fallait y penser avant, mon pote !»
Ganesh commanda l'impression des résultats des 5 derniers jours. « On finira bien par trouver un indice dans les données de l'archiviste. »«
Il y en a des millions !» objecta Ava.
« On y passera le temps qu'il faudra. »
Ava tendit au fouineur une tasse emplie de thé au lait. Théo m'avait dit que tu étais du genre obstiné. Ganesh prit la tasse avec un sourire de remerciement et but une gorgée de thé. Excellent.
J'ai l'impression qu'il s'est fourré dans le pétrin, reprit-il. Tu crois tout de même pas que je vais rester les bras croisés? Ça vaut pas mieux de s'agiter dans tous les sens. Merde, Ava, arrête de déconner! Si tu sais quel...
Ardouin, le chef de groupe, ouvrit la porte du bureau et passa la tête dans l'entrebâillement.
Réunion immédiate dans la grande salle! La municipalité de Paris a une communication urgente à nous faire!
Théo n'est pas là ?
Non, et ne me demandez pas où il est passé. Je n'en sais foutrement rien, répondit Ganesh.
Le regard d'Ardouin se posa sur Ava.
Vous non plus, Ava ?
Ganesh remarqua de nouveau l'hésitation de la jeune femme.
Non, monsieur.
Les yeux d'Ardouin revinrent se planter dans ceux du fouineur.
La piste que tu remontais, Ganesh, elle en est où ?
Dans une impasse.
Le chef de groupe grimaça.
On est tous dans des impasses. La mairie va encore nous remonter les bretelles. Ils n'ont qu'à venir sur le terrain, les planqués de la mairie. Ils verront si c'est aussi facile,
maugréa Ganesh.
Ils ont tous les droits. Ce sont eux qui nous filent le budget et ils sont sur les dents. Amène-toi, Ganesh. Tu viens aussi, Ava. Puisque Théodore t'a planté là, autant que tu vois à quoi ressemble une réunion. À la mairie, ils appellent ça une communication. Moi, je dirais plutôt un coup de gueule à fin purement électorale.
Une nouvelle émeute a éclaté dans les quartiers nord de Paris. Les forces de l'ordre et l'armée ont eu toutes les peines du monde à juguler la foule en colère qui se dirigeait vers la mairie. Il a fallu pour la première fois utiliser les canons à eau et les gaz anesthésiants. On signale d'autres rassemblements dans l'Est et dans le quartier d'Ivry. On assiste aux mêmes scènes à New York et à Londres. Nous demandons à la population de garder son calme. Les autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre le problème des ombres. Les enquêtes progressent et on nous annonce bientôt des résultats concrets. Les manifestations de masse ne réussissent qu'à entraver l'action de la municipalité et différer l'arrestation des meurtriers. Par ailleurs, on nous fait part d'une augmentation brutale de la pollution. La cote d'alerte est de 8,60 sur une échelle de 10. Les réserves de correcteurs nanoneuro ne seront sans doute pas suffisantes pour soigner les allergies et les maladies de peau. Nous vous conseillons donc de ne sortir qu'en cas d'absolue nécessité. Je répète, ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité.
Qu'est-ce qu'on attend pour demander l'application de l'article 72A ?
Tonna Jeffrey Dobbs.
Les opinions publiques sont mûres et le maire de Londres me soutient. Il aura le siège du nouveau gouvernement pendant 2 ou 3 ans, puis nous reviendrons à New York dès que nous n'aurons plus besoin de lui.
Consuelo Shark, la conseillère, une brune aux yeux de braise, croisa ses jambes gainées de soie. Pourtant jolie, elle n'était pas du goût de Dobbs.
Nous prévoyons de faire jouer le 72A lors de la prochaine assemblée mensuelle, monsieur.
Il sera peut-être trop tard. Imaginez que les Grubbs, les fouineurs ou les ferrets parviennent à arrêter les ombres. Nous ne pourrons plus réclamer la clause d'exception. Une chance nous est offerte, une chance unique, et nous sommes en train de la laisser filer.
Consuelo tira sur sa jupe. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée à son service,
Dobbs remarqua que ses bas étaient tenus par d'antiques porte-jartelles, un détail qui l'intrigua.
« À notre avis, les ombres tiendront les grubs et les autres en échec pendant un bon bout de temps. Nous devons éviter de nous précipiter. Les opinions ne sont pas aussi mûres que vous ne le pensez. Il nous faut encore les convaincre que la concentration des pouvoirs est indispensable à la sécurité de la cité unifiée. Et moi, je vous répète que l'excès de prudence risque de foutre le projet en l'air.
Nous pensons au contraire que le changement de régime doit s'accomplir dans la plus stricte légalité. Vous serez d'autant plus légitime que vous n'aurez pas violé la constitution de la CU. »
Jeffrey Dobbs déplia sa grande carcasse et se rendit près de la fenêtre de son bureau, qui donnait sur l'Empire State Building et les immeubles les plus anciens de Manhattan.
« La situation actuelle est une situation d'exception !» fit-il après un temps de silence. « Le 72A est un article d'exception. Nous ne faisons qu'appliquer la Constitution, pas la violer.
Il y a la lettre et l'esprit. Il vaut mieux agir dans l'esprit. Vous serez mieux accepté par la population de Nilopa. Je sais que la patience n'est pas votre fort, mais... »
Dobbs se retourna avec vivacité et lança un regard flamboyant à son interlocutrice.
« Que savez-vous de moi ? Ce n'est pas parce que vous êtes ma conseillère qu'il faut vous croire admise dans mon intimité !»
Les traits de Consuelo Shark restèrent impassibles.
« De la glace sous le feu, » songea Dobbs.
« Je n'aurai pas cette outrecuidance, monsieur. Je me base seulement sur les éléments de votre passé et les analyses morphopsychées de ma biopuce. » La façon dont vous avez conquis la mairie de New York et toutes les étapes qui ont précédé votre avènement montrent que vous avez su forcer le destin. Mais il s'agit cette fois d'unifier la cité, d'imposer notre nouvelle trinité, un peuple, une langue, une loi, et la précipitation n'est probablement pas la bonne solution, même si les ombres nous ont donné un sérieux coup de pouce.
Les arguments de sa conseillère ramenèrent le maire de New York à la raison.
À propos des ombres, « faudrait régler le problème rapidement une fois que nous aurons obtenu les pleins pouvoirs.
L'unification des corps des enquêteurs spéciaux nous y aidera. Nous estimons que leur efficacité augmentera de 30 ou 40% lorsqu'ils passeront sous commandement unique.
Où en est la dissolution de... Enfin, vous savez de quoi je parle.
Le phénomène des ombres a rendu inutile l'infiltration des groupes spéciaux, dont les organisations clandestines et criminelles de Nilopa. Nous avons tranché tous les liens.
Et les groupes dissidents ?
Cela pourrait parler. »
Consuelo Shark leva une main avec le pouce, l'index et le majeur relevé.
Il en reste trois. L'un est sorti du périmètre de la CU. Les deux autres se terrent quelque part. Nous les trouverons, tôt ou tard.
Il vaut mieux tôt que tard.
Bon nombre de batailles se préparaient dans les antres de la cité unifiée. Nul ne savait qui sortirait vainqueur de ces obscurs complots, mais une chose était sûre. La cité aurait toutes les peines de l'univers à s'en remettre, si un jour elle s'en relevait.
Parfois, celui que tu crois ton meilleur ami est ton pire ennemi. Parfois, celui que tu crois ton pire ennemi est ton meilleur ami. Proverbe hors site. Pays hors site. Un projectile atteignit deux lunes à la tempe. À demi étourdi, il s'appuya de tout son poids sur la perche pour tenter d'éloigner le radeau de la berge, maintenant distante d'une quinzaine de mètres. Certains de ceux et celles qui leur jetaient des pierres étaient entrés dans l'eau jusqu'à la taille. Ils se penchaient sans cesse pour ramasser de nouveaux cailloux dans le fond de la rivière et les lancer en poussant des hurlements stridents. Naya discernait leurs yeux sous leurs arcades saillantes. Des yeux inexpressifs, des yeux d'animaux. De même, leurs lèvres retroussées dévoilaient des dents fortes et pointues, semblables à des crocs. Elle aperçut à flanc de colline des ouvertures, sans doute les entrées de leurs habitations. Prostré près d'elle, Yosp tremblait et gémissait. Naya tenait le bâton levé devant elle, prête à frapper, tout en évitant les pierres qui sifflaient autour d'eux et achevaient de déchirer la toile de l'abri. Elle entrevit le sang sur la tempe de deux lunes et craignit qu'il ne soit inconscient, mais il essayait toujours de diriger le radeau. Inexorablement poussé vers la berge, malgré ses efforts, il se rapprochait des cannibales.
« Putain de lune, ils vont nous choper !»
hurla Naya.
« Le courant est trop fort !»
Les premières gouttes de pluie hérissèrent la surface de la rivière, mais n'entamèrent nullement l'ardeur des cannibales. Le plus proche frappait l'eau du plat des mains avec des hurlements suraigus. Le radeau arrivait à sa hauteur. Il saisit un rondin et le tira vers la berge. Naya lui cingla le crâne à l'aide du bâton pour lui faire lâcher prise,
mais les coups restaient sans impact.
« Les heures, elles me disent, l'homme barbu arrive et fait un bruit terrible !»
bêla Yosp. Les vociférations montaient désormais en cœur assourdissant. Ils avaient cessé de lancer des pierres, attendant que l'homme à la musculature imposante hale le radeau jusqu'à la berge. De Lune et Naya joignaient leurs efforts pour tenter d'éloigner les cannibales à coups de perche. Les mains des assaillants se tendaient vers eux, pourvues d'ongles épais et longs. De près, leurs mutations génétiques sautaient aux yeux. Pénis atrophiés, multiples tétons et seins allongés tombant presque au nombril, mâchoires proéminentes, peau couverte de plaques de poils très denses.
« Il est où, ton homme barbu ?» glapit Naya. « Les heures me disent, il vient !»
Une femme évita le bâton de Naya, lui agrippa les chevilles et la déséquilibra. De Lune ne put lui venir en aide. Des cannibales s'accrochèrent à sa longue perche avant qu'il ait eu le temps de l'abattre sur eux. Naya s'affaissa. La femme l'attira par les jambes. Elle glissa sur les rondins sans parvenir à saisir aucune prise et sombra dans l'eau froide. La femme l'empêcha de remonter, de respirer. L'air commençait à lui manquer. Elle voulut se défendre, s'aperçut qu'elle avait perdu le bâton dans sa chute, essaya de griffer les jambes de la femme. Ses ongles ne firent que glisser sur la peau, aussi dure qu'une carapace. Elle ouvrit la bouche pour hurler. L'eau s'infiltra dans sa gorge. Une pensée de colère à l'encontre de Delune la traversa. L'homme du lynx avait raison, en affirmant que sans protection ni armes, il ne ferait pas 20 pas dans le pays hors site. Et Delune n'en avait pas tenu compte. La liberté négociée par le guérisseur les avait conduits à la mort en moins d'une demi-journée. Ses pensées s'en mêlèrent. Elle allait quitter cette vie sans savoir ce qu'étaient devenus les siens. Exterminée par les clans ennemis du Pégase, vendue comme esclave à de riches familles, massacrée par les cavaliers de l'Apocalypse. Les formes se firent floues devant elle. Les jambes épaisses de la femme cannibale ondulaient comme des algues. De Lune, qu'attendait-il pour la sortir de là? Il lui sembla soudain entendre un fracas. Les remous s'apaisèrent. La pression de la main sur son crâne se relâcha. Elle remonta. Naya jaillit à la surface et expulsa toute l'eau que contenaient sa bouche et son nez avant de prendre une inspiration. Les cannibales se replièrent en toute hâte vers la berge, s'égayèrent vers les bouches sombres à flanc de colline. De Lune flottait quelques mètres derrière elle, vêtements gonflés d'eau. Aucune trace de Yosp. Une silhouette sombre surplombait un rocher dominant la berge. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un ours, puis elle discerna un visage, une barbe, des vêtements sous la fourrure brune. Un homme recouvert d'une peau d'ours. Il braquait un fusil en direction de la colline. Il fit feu, et Naya comprit que la première détonation avait fait fuir les cannibales. Un corps gisait sur la berge. Un fuyard s'affaissa entre les rochers et roula jusqu'au pied de la colline. Elle fouilla de nouveau la rivière du regard. Repéra enfin, par une déchirure de la toile, Yosp, roulé en boule derrière l'abri du radeau, échoué sur la berge. L'homme vêtu de peau d'ours releva son fusil et d'un large geste du bras leur fit signe de le rejoindre.
« Dame, vous avez de la chance que je passais dans le coin !»
Il dégagea son crâne de la tête de l'ours et ébouriffa des cheveux empoissés de graisse. Naya avait eu du mal à le reconnaître, tandis que De Lune l'avait salué par son nom à peine le pied posé sur la berge. Kolb, le trappeur de la grotte aux ours. Rencontré après que De Lune avait tué l'agresseur de Naya dans les ruines, non loin du noyau. Il descendait vers le sud comme chaque année avant l'hiver, traînant derrière lui un brancard chargé des pots qu'il vendait d'une agglomération à l'autre.
« J'ai vu ton maître, Dandra, et je lui ai transmis ton message. »
Kolb leur avait offert de partager son repas après la dispersion des cannibales. Naya pensait qu'il allait s'éloigner de la berge pour allumer le feu, mais il était resté sur place, disant dans un grand rire que les sauvages n'étaient pas prêts de montrer le bout de leur museau.
« Quand ils entendent un coup de feu, il leur faut au moins 2 ou 3 jours pour s'aventurer dehors. Si, en plus, j'en tue un ou deux, ça monte tout de suite à 5 ou 6 jours. »«
Comment se nourrissent-ils ? » demanda De Lune.
Ah, « J'en sais foutre rien, mon gars. Je suppose qu'ils se mangent entre eux. Vaut mieux pas tomber dans leurs pattes, ils vous boulottent à vif en commençant par le foie, leur morceau préféré. »
Le trappeur secoua la tête comme pour chasser un souvenir pénible.
« C'est arrivé à un homme que je connaissais, » reprit-il. « Je suis arrivé trop tard. Il l'avait vidé de son foie, de son estomac et de ses intestins. Il était encore vivant et hurlait comme un putois. Je l'ai achevé d'une balle dans la tête. C'est tout ce que je pouvais faire pour lui.
Ils mangèrent du ragondin grillé, une viande au goût assez fort. Yosp ne cessait de lancer des regards terrorisés vers les grottes du flanc de la colline.
« Où vous l'avez trouvé, ce drôle d'oiseau ?» demanda Kolb.
« Dans la grotte où nous vous avons rencontré, » répondit de Lune. « Il était le seul rescapé d'une tribu exterminée par les cavaliers de l'Apocalypse. »«
Il n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. »«
Au contraire, » intervint Naya, « il peut prédire l'avenir. »
« Ce serait une vigie. »«
Vous connaissez les vigies ?»«
Dame, je fais souvent des affaires à Trois Aubes et dans les agglomérations voisines. Et je sais que les vigies sont très recherchées. »
Son repas achevé, le trappeur se leva et fit le tour du radeau qu'ils avaient tiré sur la grève.
« Pas bête, votre engin !» déclara-t-il. « On se fatigue moins et on gagne du temps. Et puis les bêtes viennent tous les soirs boire à la rivière. Facile à attraper. Faudrait que j'y songe pour mes vieux jours. Et que j'oublie ma frousse de l'eau. »
« Faites un bout de chemin avec nous, » proposa de Lune. « Nous descendons aussi vers le sud. »
Le trappeur se retourna. Ses yeux brillaient sous ses sourcils touffus. Du visage, on ne lui voyait qu'une petite partie du front et le haut des pommettes. Il avait retiré sa peau d'ours avant le repas et portait une tunique et un pantalon de cuir retenu par une ceinture, qui faisait office de cartouchière. Le manche ouvragé d'un poignard dépassait d'une gaine de cuir lacée à sa cuisse. Il empestait la graisse, l'urine et la sueur.
« Qu'est-ce que vous comptez faire dans le sud ?»«
Nous y installer, changer d'air. »«
Il n'y a pratiquement personne là-bas, juste quelques villages qui n'arrivent même pas à faire une agglomération. Et pas trop de règles non plus. C'est la loi du plus fort. »«
Ça change pas vraiment de Trois Aubes ou du Noyau ?» objecta Naya.
« Trois Aubes, le Noyau et les autres agglomérations ont quand même une forme d'organisation avec la loi des clans. » Dans le sud, c'est chacun pour sa peau. On peut faire confiance à personne. Peut-être à cause de l'atome qui a pollué l'air, ça les rend dingues. Il y aura en tout cas du boulot pour être un bon guérisseur, vu le nombre de tares dont les gens sont affligés. Mais je suis pas sûr que tu y trouveras les mêmes herbes que par ici.
La nature fait bien les choses, affirma Delune. Les plantes s'adaptent au désordre des êtres organiques. Il faut juste apprendre à les reconnaître, à les expérimenter. Et les tribus sauvages? Demanda Naya. Y en a?
Comme partout. Encore plus sauvage qu'ici. Des animaux plus que des humains.
Kolb leva les yeux vers le ciel.
La nuit va pas tarder à tomber. On devrait s'installer.
Vous comptez quand même pas passer la nuit dans le coin ? Protesta Naya.
Pourquoi pas ? Il y a de l'eau. Et peut-être qu'une loutre argentée ou une autre bestiole ramènera le bout de son museau.
Elle désigna les ouvertures à flanc de colline.
Et eux ? Vous en faites quoi ?
Eux ? J'ai déjà dit qu'ils resteraient dans leur grotte pendant 3 ou 4 jours.
Vous pouvez vous tromper.
Ma foi, si je me trompe, tant pis pour moi.
Tant pis pour nous, vous voulez dire.
Le trappeur revint vers le feu qu'il éteignit avec les semelles de ses bottes avant d'éparpiller les restes de bois calciné.
On est toujours seul pour mourir.
Lorsque Gwenyl rentra chez elle, elle y fut accueillie par 3 hommes aux mines patibulaires. Des membres du lynx, reconnaissables à leurs longues tresses et aux gris fornant leurs vestes de cuir. Ils avaient sans doute pris possession de sa maison. Depuis la fin de la guerre, les vainqueurs paradaient en ville, molestaient les passants, abusaient des femmes sous les yeux de leurs maris, frappaient à mort les hommes qui protestaient, entraient dans les maisons, vidaient les réserves de nourriture ou d'alcool. Bref, maintenaient 3 aubes dans une terreur permanente. Gwenyl avait surpris des messes basses entre des hommes qui projetaient déjà de repartir en guerre contre Dronka et les siens. On ne comptait plus les hommes, vieux ou jeunes, cloués sur les portes. Leurs femmes et leurs enfants, vendus à la criée, allaient grossir la multitude des esclaves affectés aux tâches les plus pénibles, avec, pour toute récompense, des colibets, des crachats, des coups.
« Vous voulez quoi ?» grogna Gwenyl. « On cherche un gars appelé Delune, » répondit l'un des hommes.
« Qu'est-ce que vous lui voulez ?»
Dronka a entendu dire que c'est un bon guérisseur. C'est ton mari qui l'a vendu à la criée, on t'a vu avec lui. Tu saurais pas où il est passé par hasard.
Elle ne l'avait plus revu depuis qu'il était parti en pleine nuit pour se rendre dans la maison de Dronka. Elle avait arpenté les rues de Trois Aubes pour vérifier qu'il ne faisait pas partie des cadavres amoncelés dans les rues ou cloués aux portes. Mais les rats noirs avaient rendu la plupart des corps méconnaissables.
Il a passé un bout de nuit ici, le premier jour de la guerre. Il est parti au bout de quelques heures. Et depuis,
Je l'ai pas revu. Je sais même pas s'il est encore vivant. »
Elle se retint de pleurer. Qu'un garçon comme Delune puisse être victime d'un stupide règlement de compte entre clans lui paraissait un monument d'absurdité.
« Est-ce qu'il avait un lien avec la vigie du clan du lynx ?»
Gwenny afficha son ignorance d'un haussement d'épaule. Il valait mieux pour elle et pour lui en dire le moins possible. Les gens qui parlaient trop ne faisaient pas de vieux os à trois aubes. Une pensée de panique la traversa. Elle n'aurait sans doute pas de logement pour passer l'hiver qui s'annonçait rude. L'un des hommes s'avança vers elle en pointant un index menaçant.
« Tu as intérêt à dire ce que tu sais, femme. Dronka veut absolument récupérer la vigie et le guérisseur. »
Gwenyl se laissa choir sur la chaise la plus proche, envahie d'une soudaine lassitude qui lui sciait les jambes. Elle n'était plus très sûre de tenir à la vie.
« Delune fait ce qu'il veut. Je ne suis pas sa mère.
À mon avis, il s'est tiré loin de ce trou à rats et il a bien fait. Vous aurez beau me torturer, je pourrais rien vous dire de plus. »
Elle s'attendait à ce que les visiteurs la frappent ou lui tirent une balle dans la tête, quand, dans un froissement de cuir, ils se dirigèrent vers la porte, toujours brinque-ballante, depuis le passage des ocs et de ses sbires.
« Si tu apprends quelque chose à son sujet, tu serais bien avisé d'en parler à Dronka, »
déclara l'un d'eux avant de sortir.
« Il y a une belle récompense pour celui ou celle qui nous remettra sur sa piste. »
Elle resta un long moment assise après leur départ, incapable de bouger. Son regard se promena sur son intérieur dévasté, sur les meubles renversés qu'elle n'avait eu ni le courage ni la force de remettre sur pied. Elle n'avait jamais connu le bonheur dans cette maison. Dark, grossier, buté, vantard, radin, sale, ronfleur et baffreur n'avait pas été un bon mari. Elle ne regrettait pas de ne pas lui avoir donné d'enfant. Il valait mieux, pour ce que l'on pouvait encore compter d'humanité, que certaines branches restent mortes. Elle avait davantage ressenti d'amour en quelques jours avec Delune qu'en 35 ans de vie commune avec Dark. Son cœur avait débordé pour le jeune guérisseur. Elle avait su ce qu'était l'amour inconditionnel d'une mère. Elle voulait croire qu'il était en bonne santé et en sécurité quelque part dans le pays hors site. Maintenant, elle pouvait mourir. Finalement, poussée par la faim, elle finit par se relever, se munit de son crochet à rats et de son panier en maille de fer, et sortit. L'odeur de corps en décomposition dominait la puanteur ordinaire d'égout et de déjection. Elle cherchait le bon endroit pour capturer les rats, qui seraient l'ingrédient principal de son dîner. Non qu'elle apprécie particulièrement leur goût, mais les autres viandes étaient rares et trop chères pour ses maigres économies. Il se montrait agressif et il lui arrivait de plus en plus souvent de rentrer bredouille. La vieillesse se traduisait d'abord par moins de vivacité et moins d'adresse. Elle enfila les ruelles au hasard en observant les égouts. Elle reconnut la maison des Ocs, une construction de tôle et de bois, trois ou quatre fois plus vaste que les habitations ordinaires. Un corps était cloué à la porte, entièrement nu, mutilé. On l'avait émasculé, éventré, et on lui avait crevé les yeux. De drôles d'yeux asymétriques, comme plantés au hasard sur un visage chaotique.
« Va en enfer !»
grommela Gwenyl. Ce fut la seule raison pour Ezok, guérisseur du clan disparu du Père-Soreil.